théologique que philosophique. Je la lis quand même, puisqu'elle est posée. Ce qui fait la dignité de notre personne. Voyez, on dit tout de suite sa sainteté. Dans le langage philosophique, je laisserai simplement la dignité de notre personne, son accomplissement parfait. Est-ce l'amour personnel que Dieu a pour nous de toute éternité? Oui, mais surtout notre réponse. C'est sûr. Parce que l'amour de Dieu pour nous, il existe, mais comment on répond? Et la dignité de notre personne, c'est notre réponse. C'est ce que nous allons voir. Alors, avant d'entrer, de continuer, on m'avait fait la remarque, et on a raison, quand je parle du jugement d'existence, ceci est. N'oublions pas que c'est comme un dépassement de l'expérience. Mais je ne peux pas dire que j'ai l'expérience du jugement d'existence au sens fort d'expérience. L'expérience fait toujours appel au sens, aux sensations. Alors il y a l'expérience externe qui fait appel à nos sensations extérieures. Et l'expérience interne qui fait appel encore d'une certaine manière à ce que nous ressentons imaginativement et aussi sensiblement. Il y a un toucher interne, mais c'est très fort l'imagination. Alors le jugement d'existence, c'est l'intelligence qui, au-delà de l'expérience, je touche cette table. Voilà l'expérience. Elle est tiède. Elle n'est pas froide. Elle n'est pas chaude. Ni chaud, ni froid. Pour la table, la tiédeur, c'est pas mauvais. Pour notre cœur humain, c'est différent. Au-delà de la sensation, l'intelligence saisit ce qui est. C'est donc l'intelligence qui saisit ce qui est. Vous voyez, Descartes avait chassé dans son doute méthodique les sensations propres, les sensibles propres, parce que on pouvait se tromper. Si Descartes avait compris le jugement d'existence, il aurait peut-être compris qu'on peut fonder une philosophie sur une évidence que nous donne l'intelligence au-delà des sensations. Ceci est. C'est l'évidence d'une réalité qui existe indépendamment de moi, au-delà de moi. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que le jugement d'existence est méta-expérience. Et je crois que c'est juste de dire ça, pour qu'on comprenne bien que c'est comme un au-delà de l'expérience. Alors, entrons maintenant dans la seconde dimension de la personne humaine. Toujours à partir du « je suis ». Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement important après avoir détecté cette autonomie fondamentale? Après avoir réfléchi sur le conditionnement substantiel de mon corps qui vient limiter mon autonomie, je crois que que tout de suite, il faut voir le dépassement que mon esprit peut réaliser du côté de l'intelligence et du côté de la volonté. Alors voyons d'abord l'intelligence. Le « je suis » est conscient. C'est sûr. Je suis conscient qu'il y a en moi une capacité de réfléchir, de connaître, une capacité d'étudier, d'analyser, une capacité de réfléchir sur ce que je suis, une capacité de découvrir toutes ces dimensions de la philosophie à partir de moi-même, à partir des réalités qui sont autour de moi, et que il y a en moi une capacité de recherche de la vérité. Je crois qu'au point de vue de la personne humaine, cette seconde dimension, la recherche de la vérité, est quelque chose de capital. Cela fait comprendre la dignité de la personne humaine, capable de rechercher la vérité, donc capable de saisir ce qui est en moi, ce qui est autour de moi, ce qui est distinct de moi dans notre monde, et de découvrir qu'il y a par mon esprit, par mon intelligence, il y a une capacité de penser, d'analyser, pour découvrir la vérité. Au fond, toute la démarche philosophique est une recherche de vérité. Connaître ce qu'est l'homme, c'est une démarche de vérité qui s'impose à moi, qui est naturelle, mais une démarche de vérité qui doit tout le temps se renouveler. Parce que si je ne suis pas très attentif, au bout d'un certain temps, je serai fatigué et je m'arrêterai. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus recherche de la vérité. Et je me laisserai porter par les opinions de ceux qui sont autour de moi. C'est si facile, hein, aujourd'hui. Les informations, ce qu'on peut dire, à droite ou à gauche, et on se laisse prendre, et on n'a plus cette autonomie de choisir cette recherche de la vérité. Je me souviens d'une conférence que j'ai eue à Fribourg. C'était la conférence de Beuve Méry, directeur du journal Le Monde, en ce temps-là. Et Beuve Méry, faisant cette conférence à Fribourg, sachant qu'on était dans un lieu où il y avait des dominicains, qu'on aimait Saint Thomas, je m'étais mis bien en face de lui. Je crois que j'étais le seul dominicain qui assistait, mais ça fait rien. C'était suffisant. vidé leur vase de lui. Je le regardais, ça m'intéressait, tu vois, parce que c'était quelqu'un d'intelligent. Alors, il est arrivé à dire, qu'est-ce que c'est que la vérité pour le journaliste ? Il dit, quand on en voit tel ou tel événement, on a une petite idée en tête. C'est bien. Et alors, on voit si les événements sont conformes à l'idée qu'on a. Je dis, c'est drôle de vérité. La vérité du journaliste. Heureusement qu'il peut y avoir d'autres journalistes. Alors, on voit très bien qu'à ce moment-là, vous voyez, on est attaché à certaines orientations de son journal. Et donc, ça devient une vérité qui n'est plus une véritable vérité qui dit ce qui s'est passé et comment cela s'est passé. Et qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est passé comme ça, on se pose toutes les questions. Quelle est la finalité de cette manifestation, de cette fête populaire? Pourquoi? Oui, on essaie de comprendre, et de comprendre le plus parfaitement possible, tandis que voir si c'est conforme à l'idée qu'on s'est faite, dans l'orientation de son journal. Ce n'est pas la recherche de la vérité. C'est confirmer ses idées politiques en fonction de certains faits. Ça peut être très bien pour une propagande, parce que c'est ça, une propagande. Mais ce n'est pas la recherche de la vérité. C'est difficile, la recherche de la vérité. Très difficile. Parce qu'il faut quelquefois aller contre certaines opinions publiques qui vous entraînent. Et très souvent, on se laisse entraîner par ces propagandes. C'est Peggy qui dit admirablement ce que c'est que rechercher la vérité. Peggy n'était pas un philosophe, mais il aimait la philosophie. Et c'est quelquefois mieux ceux qui aiment la philosophie que les philosophes de profession. Parce qu'au fond, il n'y a pas de profession d'être philosophe. Le philosophe doit être un homme sage qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui et en lui, qui essaie de comprendre ce qu'est l'homme dans sa diversité, dans ses richesses et sa pauvreté. Alors Peggy donne cette définition admirable du philosophe qui cherche la vérité. Alors disons tout simplement de l'homme qui cherche la vérité. Et Peggy distingue le monde, justement, en deux catégories. Ceux qui cherchent la vérité. Il dit, c'est difficile de chercher la vérité. Il faut accepter quelquefois d'être seul. Parce qu'il s'agit souvent de remonter à la source. Et très souvent, toutes les propagandes ne font pas cet effort. Il faut donc avancer avec une très grande force intérieure de rechercher la vérité. Et accepter d'être seul. La plupart des hommes ne recherchent pas la vérité. Peggy disait ça déjà de son temps. Je crois qu'il affirmerait ça avec encore beaucoup plus de force aujourd'hui. La plupart du temps, les hommes font comme tout le monde en fait. On suit la mode. Suivre la mode, normalement, suivre la mode, on ne pense pas beaucoup, honnêtement. On regarde ce qui est à travers. les vitrines, dans les magasins, très chics. Et puis on voit la mode de l'été, la mode du printemps, la mode de l'hiver, ça change. Et on achète en fonction de ça. Donc on ne juge pas du tout. On suit la mode. La plupart du temps, les gens suivent ce qu'on dit être bien. C'était Grasset, l'éditeur, qui un jour a dit « Je peux vendre le livre que je veux s'il n'est pas trop mauvais. » Parce que les hommes sont incapables de juger et jugent en fonction des propagandes. Et c'est vrai, ça. Il y a très peu de personnes qui jugent vraiment, qui recherchent la vérité. La recherche de la vérité, c'est pourtant capital. Alors Peggy dit, la plupart du temps, les hommes font comme tout le monde. Ils descendent le fleuve. Et Peggy ajoute, les cadavres le descendent plus vite. Transposez ça. On voit très bien ce que ça veut dire. Mais être à la page, surtout pas être en retard. Faire comme tout le monde. Il ne faut pas, voyez, vouloir ne pas faire comme tout le monde. Ce serait encore faire comme tout le monde. Mais il faut chercher la vérité. Et même si on sait que cette vérité est difficile à maintenir. Vous voyez, cette réflexion que j'ai entendue il y a quelques années, ben c'est pas très vieux, d'un groupe de jeunes, je ne dis pas qui quand même se pique un peu de recherche philosophique et théologique. Et celui qui était un peu le président de ça m'a dit, est-ce que vous pourriez pas nous faire un topo sur l'âme? Je dis, bon, très bien. Qu'est-ce que vous pensez sur l'âme? L'âme humaine. Alors j'ai essayé de faire ce topo pendant une heure. C'était une vingtaine. Alors, il m'a dit au terme, oui, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Mais ce qui est très ennuyeux, c'est que la connaissance de l'âme, la connaissance philosophique de l'âme, n'est plus sur le marché. Alors là, j'ai bondi. J'ai dit, vous, c'est votre référence alors. Est-ce que vous êtes philosophe ou pas? Est-ce que vous êtes théologien ou pas? Si vous cherchez la sagesse, vous cherchez la vérité. Et si c'est plus sur le marché, il s'agit de l'y mettre. Si on juge que c'est important, ça c'est le rôle du philosophe. Il voit une faiblesse dans le monde d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il faut parer à cela. Et il faut réparer. Il faut faire ce qu'on peut pour que si on juge que connaître son âme, connais-toi toi-même. Le vieux Socrate, connais-toi toi-même. Si on juge que c'est absolument indispensable pour ne pas descendre le fleuve avec les cadavres, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'âme, parce que c'est ça le cadavre, et que descendre plus rapidement, parce qu'ils n'ont plus d'âme. Si on veut qu'il faut réagir contre cela, mais il s'agit justement, même si on est seul, peu importe, on sera seul à chercher la vérité. Mais si on est convaincu que c'est la chose la plus grande qu'on peut faire dans ce monde, et de la chercher à travers toutes nos occupations, parce qu'il y a diverses modalités de la vérité. Il y a la vérité pratique, il y a la vérité spéculative des sciences, des mathématiques, de de la logique, puis il y a une vérité philosophique. Et de philosophie première, de métaphysique, il y a toute une série de vérités. Alors, la recherche de la vérité à tous les niveaux, et tout spécialement au niveau de ce qu'est l'homme. Découvrir la vérité sur l'homme, c'est-à-dire ce pourquoi l'homme est fait, ce pourquoi l'homme existe. Comprendre que la recherche de la vérité est essentielle au développement de notre personnalité, au développement de notre personne. Quelqu'un qui ne recherche plus la vérité, très vite, son intelligence s'affaiblit. Et on fait comme tout le monde. On n'a plus rien de vraie découverte personnelle. On répète comme un bon perroquet. On répète. On n'avance plus. On plafonne. On se regarde. Dans le je suis, il y a cette recherche de l'éveil de mon intelligence. Il faut la réveiller constamment pour être une intelligence, on dirait aujourd'hui, dynamique, c'est-à-dire une intelligence qui cherche la vérité et qui la cherche de plus en plus et qui va aller le plus loin possible dans cette recherche de la vérité. Je crois cela essentiel à ce que représente la personne humaine. S'il n'y a plus cette recherche de la vérité, on ne peut plus avoir un discours vrai. On ne peut plus communiquer la vérité. On ne la sent plus. On ne la découvre plus. On se laisse mener. Et on n'est plus capable d'essayer de comprendre ce qui, autour de nous, peut être bon pour notre intelligence, ou au contraire nocif. La vérité, la recherche de la vérité, maintient mon intelligence aiguisée, pénétrante, pour aller toujours vers ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, dans l'intelligence de l'homme. Cette recherche de la vérité, c'est quelque chose de capital dans notre vie. Je crois que tous, on peut, là où on est, avec ses propres moyens, rechercher la vérité et être capable de témoigner de la vérité. Être capable de pouvoir dire à l'occasion, quand on peut le faire, quand il y a un domaine qu'on a étudié de près, de relever les erreurs. Elles sont constantes, ces erreurs. Et comme je vous le disais, les erreurs se propagent plus vite que la vérité. Je vous donne un exemple. Parce que c'est toujours important de saisir ça dans notre vie. C'était en Suisse, dans le Valais, que j'aime beaucoup, à Sion. J'avais quelques minutes, j'entre dans la cathédrale pour prier. Et en partant, je vois Oh, des papiers, vous savez, dans les fonds d'église, il y a toujours des papiers. Tout ça. Alors, par curiosité, je regarde ce qu'il y a sur ces papiers. C'est intéressant de tâter le pouls de la communauté paroissiale téléguidée par le curé. Alors, c'est intéressant de voir ça. Je m'arrête des fois pour les catéchistes. Ah, tiens, très bien, on va voir ce qu'on va dire. Et je me mets à lire. Et alors on dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, la recherche de la vérité. On dit, surtout ne parlez plus de la distinction de l'âme et du corps. C'est une distinction qui vient de la Grèce, d'Aristote. C'est complètement dépassé, cette distinction. Il faut comprendre aujourd'hui que l'homme est un, substantiellement un. Il n'a pas conscience de la séparation de l'âme et du corps, il n'a aucune expérience de cela. J'aurais pu ajouter si c'était dans les rêves, n'est-ce pas ? Mais autrement, on n'a aucune expérience de notre âme séparée de notre corps. C'est vrai, mais nous pouvons découvrir ce que c'est que l'âme. Pour découvrir ce que c'est que le corps. Alors on faisait tout un topo là-dessus. Alors, j'ai compris ce mot d'ordre qui était faux. Vous comprenez bien, si la distinction de l'âme et du corps est vraie, ça n'a pas changé. Je crois pas que l'homme a changé beaucoup depuis 2000 ans, depuis 4000 ans. Je crois qu'il avait toujours une âme et un corps. Je crois. Autrement, il viendrait, je ne sais pas, de la lune. Et même là, si c'est un homme, une âme et un corps. Alors quand on dit que ça vient de la Grèce, c'est faux. Ça vient de l'Inde. Tradition religieuse qui vient de l'Inde, puisque la Grèce a emprunté ça aux traditions de l'Inde. Un très bon historien de la philosophie grecque, j'ai lu ça dans le temps, disait la distinction de l'âme et du corps, c'est Platon qui l'a introduite. En considérant les traditions religieuses de l'Inde, pour voir si c'était vrai ou faux. Donc c'est pas Aristote, c'est Platon. Deuxièmement, Aristote a continué. Et cet excellent historien dit, à la mort d'Aristote, les stoïciens ont repris la position traditionnelle grecque, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus la distinction de l'âme et du corps. Alors voyez, on voit très bien quand on dit grec Aristote, on lutte contre. Puisque derrière, il y a Thomas d'Aquin. Il faut dépasser. Alors, ne plus regarder la distinction de l'âme et du corps, ça m'est égal si c'est la Grèce ou l'Inde. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, on doit la comprendre. Et on doit essayer de voir ce que ça représente. Vous voyez, dans tous les domaines, même quand on lit le journal, rester lucide, ne pas tout gober. C'est pas comme un perroquet. Alors, le journal le dit, la télévision le dit, donc c'est vrai. Très bien que beaucoup d'informations sont téléguidées, que les journaux sont téléguidés. Je sais que c'est pas commode, parce qu'on peut pas être compétent en tout. Mais quand on a des amis qui sont compétents dans telle ou telle matière, on essaie de comprendre. C'est là, voyez, où l'amitié joue énormément. Parce qu'on ne peut pas tout faire. J'aurais aimé beaucoup d'être cosmonaute. C'est évident. Un petit voyage dans la Lune, quand même, quoi, c'est quand même. C'est intéressant de regarder la Terre de là-bas. C'est quand même quelque chose. Évidemment, ça demande un certain exercice. Je suis d'accord. Mais c'est quand même intéressant. Bon, on ne peut pas tout faire. Il faut opter. Mitage. Et vous savez que on ne peut pas respirer. Donc c'est quand même difficile. On est obligé de choisir. Mais on peut avoir des amis. Et c'est intéressant de voir l'expérience qu'ils ont eue et que nous n'avons pas eue. Et on essaie de chercher ensemble. À partir de l'expérience, on analyse pour découvrir la vérité. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, ça se maintient en nous, cette curiosité d'une recherche de la vérité. Et je crois que c'est le grand secret pour ne pas vieillir trop vite. Notre intelligence est au-delà du temps, parce qu'elle est spirituelle. Notre intelligence, normalement, ne vieillit pas. La mémoire peut vieillir. C'est la première chose qui vieillit. Mais l'intelligence, non. Elle ne vieillit pas. Mon corps vieillit. Mes sensations vieillissent. Puisque je peux moins bien entendre, moins bien voir. Mais mon intelligence ne vieillit pas. Alors, si mon intelligence ne vieillit pas, je maintiens en moi un désir de vérité et d'aller le plus loin possible dans cette recherche de vérité. C'est la manière pour moi d'intensifier tout le temps ma vie spirituelle. Ma vie intellectuelle, qui est ce qui en moi est le plus vital. Qu'est-ce qui est le plus vital en moi ? C'est ma vie de l'intelligence. Je dis bien de l'intelligence, en distinguant intelligence et raison. La raison raisonne. Bon, c'est très bien de raisonner. Mais il ne faut pas tout le temps raisonner. Il faut de temps en temps se servir des raisonnements pour regarder, pour aller plus loin, pour revenir à la réalité déjà expérimentée et analysée pour mieux la comprendre. Je reviens toujours à « je suis ». Mon intelligence ne vieillit pas. Et donc si en moi c'est ce qu'il y a de plus vital. Si je maintiens cette curiosité, par où mon intelligence ne vieillit pas, cette curiosité de connaître la vérité, et d'aller toujours plus loin dans cette connaissance de la vérité, en moi, il y a quelque chose qui reste jeune, souple, capable de progresser. Tant qu'on est capable de progresser, on reste jeune. C'est bien, c'est le caractère de la jeunesse. C'est justement cette espèce d'espérance. C'est tellement important, ça. Quand il n'y a plus la recherche de la vérité, on devient très vite vieux. On n'aime pas devenir vieux. On se contente de gérer son petit capital. Alors on devient le petit bourgeois. Qu'est-ce qui nous permet de dépasser ça? La recherche de la vérité. Ça, c'est extraordinaire. La recherche de la vérité structure ma personne humaine. C'est l'intelligence qui structure ma personne. On a vu le fondement, l'autonomie. Mais cette autonomie, il faut que constamment, j'y pense, je prends conscience de cela. Évidemment, pour prendre conscience de cette autonomie, il faut réfléchir. Pour ne pas me laisser enliser, pour ne pas me laisser aliéner, prendre par des choses qui ne sont pas justes et qui risqueraient petit à petit d'empêcher cette soif de vérité. Vous voyez, je suis responsable de maintenir en moi ce désir de vérité, cette soif de vérité. Je sais très bien que je ne connais pas tout, mais par mes amis, si je le peux, je m'enrichis de tel ou tel domaine. Et par là, mon désir de vérité s'étend et s'approfondit. Il y en a quelque chose qui est très important pour nous. Ne pas vieillir trop vite. Un monde qui ne recherche plus la vérité vieillit très vite. Une culture qui ne recherche plus la vérité vieillit très vite. Elle se replie sur elle-même. La recherche de la vérité m'empêche de me replier sur moi-même. Et vous voyez l'importance. S'il y a une recherche de vérité qui touche par la philosophie l'homme et qui essaie de comprendre ce que l'homme est capable de faire, ce que l'homme est capable de connaître, ce que l'homme est capable de contempler. S'il y a cette vraie recherche, tôt ou tard, je me poserai la question, existe-t-il un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, qui est mon créateur? Et je me poserai la question réellement, comment je puis découvrir qu'il existe un être premier? Si vraiment il existe, comment pourrais-je moi-même m'approcher de lui? C'est important ça, parce que si Dieu existe, m'approcher de Dieu, c'est m'approcher de ma source. Et quand je me rapproche de ma source de vie, de lumière, d'amour, je ne vieillis pas. Je me renouvelle tout le temps. C'est ça la chose très grande de remonter à la source. C'est qu'on se renouvelle tout le temps. On reprend tout le temps les mêmes réalités. L'homme qu'on veut connaître de l'intérieur, qu'on veut connaître de la manière la plus profonde qui soit et la plus simple. Voyez, on est responsable de croître dans sa propre personnalité. L'autonomie et le conditionnement substantiel qui est notre corps nous sont donnés. On ne peut pas changer beaucoup. Pour le corps, vous pouvez faire un peu de gymnastique pour qu'il ne durcisse pas trop vite et qui maintiennent une certaine souplesse. Vous pouvez faire attention de ne pas être malade, pour qu'il ne vous encombre pas trop. Vous pouvez faire attention de ne pas trop grossir, pour ne pas encombrer les autres. Vous pouvez faire attention, et ainsi de suite, vous voyez. Bon, vous pouvez faire des choses comme ça, ça c'est sûr. Mais ce conditionnement demeure. Et l'autonomie est fondamentale, elle ne bouge pas tellement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de faire que votre intelligence progresse dans la recherche de la vérité. Et tant que votre intelligence progresse dans la recherche de la vérité, vous restez jeune. Vous restez curieux. Tout continue de vous intéresser. Et vous avez une possibilité d'aller toujours plus loin dans la recherche de la philosophie, dans la recherche de ce qu'est l'homme. Et ça, c'est merveilleux, ça. Parce qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Je crois que quand il y a une recherche authentique de la vérité, on ne s'ennuie jamais. Parce qu'on s'aperçoit de la diversité des choses. Et quand vous voyez un parterre de fleurs avec une très grande diversité, vous les regardez, ça vous intéresse. Et quand vous arrivez à découvrir la structure de la personne humaine, ça vous intéresse de voir comment cette structure, c'est la recherche de la vérité. Et comment vous pouvez, si vous le voulez, intensifier cette recherche de la vérité. Faire que cette recherche de la vérité dans le « je suis » prenne possession de ce qu'il y a de plus vital en vous, ce qu'il y a de plus fort en vous. Et c'est là où Aristote a une très belle phrase. Quand il montre cette soif de vérité, il dit dans sa métaphysique que celui qui recherche la vérité, qui contemple la vérité, est aimé de Dieu parce qu'il cultive en lui ce qui en lui est le plus à l'image de Dieu, le plus proche de Dieu. Et donc, si je cultive, si je fais attention à développer en moi ce qui est le plus proche de Dieu, nécessairement, je plais à Dieu. Puisque ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai en moi, je désire le cultiver, lui permettre d'aller le plus loin possible dans tous les domaines que je peux faire, que je peux travailler. Vous voyez, par cette recherche de la vérité, vous augmentez votre autonomie. Une autonomie que vous pouvez vous-même expérimenter. Vous n'avez qu'à réfléchir un instant là-dessus. Quand il s'agit d'un domaine que vous ne connaissez absolument pas, vous essayez de rencontrer quelqu'un qui est spécialiste de cette spécialité. Cette recherche dans ce sens, vous l'écoutez, vous ne pouvez pas le critiquer, vous ne savez rien. Donc vous le recevez de lui, vous êtes dépendant de lui. C'est une bonne dépendance, puisqu'elle me permet d'aller plus loin dans la recherche de la vérité et d'atteindre un domaine que par moi-même je ne pourrais pas exploiter. Tandis que si vous avez vous-même chercher la vérité dans tel ou tel domaine, et surtout par rapport à l'homme, vous pouvez tout de suite voir que les conseils qu'on vous donne, les lumières qu'on vous donne, ne sont pas toutes vraies, et vous les rejetez. Vous êtes autonome. Enfin, l'autonomie est vécue grâce à la recherche de la vérité. La vérité pour le philosophe. La vérité vous libérera. La vérité augmente votre autonomie. Dans tous les domaines où vous cherchez la vérité, votre autonomie augmente. Vous êtes indépendant et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous savez très bien que la vérité est juste l'inverse de ce que l'autre dit, vous lui dites. C'est pas vrai ce que tu dis. Moi je sais. Tandis qu'au contraire, si vous ne recherchez pas la vérité, vous êtes esclave des propagandes, de la télévision, du journal que vous lisez. On devient l'esclave. Et ça, c'est l'esclavage le plus terrible. C'est l'esclavage de l'intelligence qui n'a pas travaillé assez pour se libérer. Il faut toujours se rappeler ça, que nous sommes capables d'augmenter notre autonomie. C'est par cette recherche de la vérité qu'on la creuse et qu'on l'étend. Et je dirais, il n'y aurait que cela, ça permettrait d'être davantage soi-même. Mais c'est beaucoup plus que ça, la recherche de la vérité. Parce que la vérité est une qualité de mon intelligence. Mon intelligence n'est parfaite que si elle est vraie. Quand mon intelligence est dans l'erreur, elle est abîmée. Elle est aliénée. Mon intelligence fait de fausses alliances. Elle s'unit à des opinions qui ne sont pas vraies. Elle s'unit à des réalités qui ne sont pas vraies. Elle se laisse dominer par l'imagination. Cette recherche de la vérité permet à mon intelligence de croître, d'aller toujours plus loin dans l'ordre de la vérité et de pouvoir comprendre que plus cette vérité est mienne, plus je suis possédé par cette vérité. Parce qu'en réalité, c'est la vérité qui me possède et non pas moi qui possède la vérité. Quand on recherche vraiment la vérité, on sait très bien que c'est la vérité qui me possède. C'est ce que je cherche, être disciple de la vérité, d'être possédé par la vérité, de laisser la vérité m'envahir de plus en plus profondément. Et à ce moment-là, étant dans la vérité, je suis conforme à tout ce qui est autour de moi, conforme à tous ceux qui veulent m'aider à aller toujours plus loin dans cette recherche et à réaliser des conquêtes dans des secteurs où je n'ai encore rien compris, rien connu, où je risque d'être complètement esclave de l'opinion des hommes. Or, je ne veux pas cela. Je veux pouvoir choisir absolument librement quand il s'agit de vérité seconde et de pouvoir garder là tout mon champ d'autonomie. Donc réfléchissez sur cette affirmation que je crois vraie, que c'est ce désir d'une recherche de la vérité. Oui, je ne dis pas la possession de la vérité ou être possédé par la vérité. Je dis le désir de cette recherche de la vérité qui doit prendre possession de ma volonté. Ce désir augmente, intensifie mon indépendance et me met capable de discerner dans ce qui m'est dit dans ce qui m'est enseigné, ce qui intéresse directement la personne humaine, et ce qui risque de l'encombrer, d'être un poids trop lourd, d'être quelque chose qui l'empêche de voler. C'est cette recherche de la vérité qui me permet de maintenir l'orientation d'un pays là où elle doit être, l'orientation d'une ville, l'orientation d'une famille, l'orientation de mes amis, les orienter de façon telle que je suis non seulement en sécurité,